des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, un choc des titans dans le registre d'un genre littéraire ultra codé, le roman policier. Un duel amical aussi dans le domaine du frisson, du meurtre atroce et de l'enquête tendue et parfois tordue, puisque nous recevons face à face l'académicien prix Goncourt et désormais auteur de Polar, on va voir si la notion lui convient, Jean-Christophe Ruffin, et Joël Dicker pour son nouveau roman noir tant attendu après La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le livre des Baltimore. Le sang littéraire va couler aujourd'hui dans le temps des écrivains et nous allons essayer de voir comment il coule et pourquoi. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Christophe.
Lauréat du prix Goncourt pour Rouge Brésil, l'académicien, ex-ambassadeur au Sénégal, ex-French Doctor. Vous restez un fin connaisseur et un amoureux de l'Afrique puisqu'elle sert de toile de fond à votre nouveau livre, Le Suspendu de Conakry, qui paraît chez Flammarion. C'est un polar annoncé comme le premier d'une trilogie et qui s'ouvre par le meurtre atroce dans la marina de Conakry, capitale de la Guinée. Meurtre d'un expatrié retrouvé suspendu par le pied. C'est un premier paradoxe ou une fantaisie de ce livre, c'est que celui qui mène l'enquête ne devrait pas mener l'enquête parce qu'il est consul et non policier. Mais c'est un consul très particulier parce que, bien que rattaché à la diplomatie française, il est roumain, il a grandi sous le régime de Ceausescu. Il s'appelle Aurel Timescu et il a longtemps habité à Paris où il gagnait sa vie en jouant du piano dans des bars sordides. Avant d'engager, on ne sait trop comment, il va l'expliquer, hein, une carrière diplomatique. L'enquête policière pour lui est un hobby, il utilise d'ailleurs le mot. Il se voit comme un fin limier, espère résoudre l'affaire, prendre une revanche personnelle aussi contre le mépris de ses pairs, africains et surtout français. Que vient faire un Roumain dans cette galère guinéenne, Jean-Christophe Ruffin?
C'est toute la question. En fait, vous savez, moi je récuse un peu le terme de polar parce que...
Voilà, c'est pour ça que je posais là. Oui, mais pourquoi alors?
Parce que, d'abord, je respecte beaucoup ce genre et je prétends pas du tout en maîtriser les codes. Simplement, j'avais, en rentrant de ces expériences diplomatiques comme ambassadeur en Afrique et puis surtout comme praticien, je dirais, de l'Afrique depuis longtemps, j'avais plusieurs histoires à raconter et je trouvais plus intéressant de les mettre en scène à travers... une enquête, c'est-à-dire à travers quelque chose qui tende un peu le récit, que de raconter mes mémoires dont tout le monde se fiche.
Il y a eu quand même un léopard sur le garrot où il y avait un petit peu quand même de diplomatie.
Oui, il y a un petit peu de diplomatie, mais c'était... là, il s'agit d'affaires, je dirais, que j'ai eu à traiter d'une certaine façon. C'est-à-dire que le cas de cet homme mort sur son bateau dans la marina de Conakry. Bon, moi, j'étais en poste à Dakar, c'est pas très loin. Ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai connues. Et ce qui m'avait frappé à ce moment-là, quand j'étais diplomate dans ces pays, c'est qu'au fond, la fonction diplomatique, qui n'est pas faite pour ça, mais est quand même très bien placée pour mener des enquêtes. C'est-à-dire qu'au fond, on dispose de beaucoup d'informations, on est pratiquement les seuls dans des pays qui souvent ont une police qui est de bonne qualité, mais qui n'a pas de moyens. Voilà, alors je trouvais... plus intéressant de mettre en scène cette enquête qui permet en fait de dérouler quelque chose de beaucoup plus profond, qui n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un homme, cette victime, on va comprendre d'où il vient, mais c'est aussi tout un paysage, c'est aussi tout ce paysage de l'Afrique et des gens qui y vivent.
Et d'ailleurs, comme vous disiez, je ne souscris pas forcément au mot polar, pendu, suspendu, oui. On sent aussi la distance, que effectivement un polar, le pendu ou les pendus de Conakry, suspendu, il y a déjà de l'ironie.
Il y a de l'ironie, parce qu'en fait le personnage, cet enquêteur, il est drôle, enfin j'espère qu'il est drôle, en tout cas moi je me suis amusé en l'évoquant, et c'est un personnage qui au fond n'a rien d'un enquêteur véritable, mais il est passionné par une chose, c'est corriger l'injustice. Voilà, il supporte pas l'injustice, et il fait rien, hein. C'est peut-être le seul diplomate au monde qui ne travaille pas, mais enfin en tout cas, j'imagine que ça pouvait exister.
Précaution oratoire de Jean-Christophe Ruffin.
Mais l'injustice le révolte et donc là, il est prêt à se mobiliser.
Bonjour Joël Dicker.
Bonjour.
Voilà, vous êtes en face exactement de Jean-Christophe Ruffin.
C'est passionnant ce que Jean-Christophe nous dit. Excusez-moi, je vous interromps. D'abord, je vous admire beaucoup et j'aurais voulu que vous ne soyez pas là. Comme ça, j'aurais pu le dire vraiment sans que vous pensiez que je vous le dis parce que vous êtes en face de moi.
Précaution oratoire aussi de
Joël Dicker. Mais je trouve dans ce que vous dites sur le polar, et c'est très important, Le polar, c'est quelque chose de très particulier. C'est pas parce qu'il y a un crime que c'est un polar. Et je crois que le polar devrait être un genre qui répond à des codes, et vous le disiez très bien. Et je crois que le polar est un livre dans lequel le corps constitutif du livre est un crime et une enquête. Alors que tout ce qui s'en éloigne, tout ce qui serait une enquête qui, au fond, est le fil rouge qui noue ensemble des liens, qui est simplement une corde à laquelle on s'accroche auteur et lecteur pour suivre les péripéties de quelqu'un ou la vie de quelqu'un, c'est un genre qui est différent. Et surtout parce que les gens qui aiment le polar sont des gens qui ont une exigence particulière sur la lecture qu'ils vont avoir, et que si vous donnez à lire un polar à quelqu'un qui est un lecteur de polar et que ce n'est pas un, vous allez être dans le pétrin.
Alors vous diriez que la disparition de Stéphanie Maillard n'est donc pas un polar, Joël Dicker, ou est-ce que vous allez affronter justement ces lecteurs de polar
Non, je dirais aussi que c'est pas un polar, parce que c'est également un livre dans lequel, en tout cas tel que je l'ai écrit, et donc j'en parle pas en tant que promoteur d'un livre en disant « attention, polar, peut-être que ce serait un genre qui serait moins important qu'un autre », pas du tout, je dis en tant qu'écrivain de ce livre, je dis « mais c'est pas ce que j'ai fait ». Parce que pour moi, dans la construction du livre, l'enquête est venue vraiment dans un deuxième temps, parce que pour moi, j'avais envie d'avoir une galerie de personnages. Il y a 30 personnages qui vivent une aventure ensemble, et il fallait un élément qui les réunisse, et cet élément-là est une enquête. Et pour le consul qui s'ennuie, excusez-moi, ça me fait beaucoup penser à Romain Gary. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Alors, est-ce que les consuls s'ennuient? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que Romain Gary disait qu'il s'ennuyait pas mal en poste à Los Angeles.
Mais Romain Gary est nettement plus élégant vestimentairement que votre Aurel.
Il était à Los Angeles. Il était à Connect.
Alors, Joël Dicker, je vous présente donc maintenant.
Pardon.
Prix Goncourt des lycéens, prix de la vocation, grand prix du roman de l'Académie française pour la vérité selon Harry Kéber, auteur du livre des Baltimore. Vous êtes de retour avec La disparition de Stéphanie Maillard, toujours chez De Fallois. On n'est pas à Conakry, mais dans une ville fictive, Orphéa, dont on comprend très vite qu'elle se situe aux États-Unis. Dans la disparition de Stéphanie Maillard, il y a deux enquêtes. La première, elle est passée, prétendument résolue. Elle a eu lieu en 1994. Elle concernait un quadruple meurtre dans cette petite ville d'Orphéa. Le maire de la ville et sa famille avaient été assassinés chez eux, ainsi qu'une joggeuse, témoin des meurtres. La seconde enquête, elle est presque contemporaine, c'est 20 ans après, et elle est liée à la première. Car la disparue, Stéphanie Maillard, est une journaliste, savait quelque chose sur ce quadruple meurtre de 1994. En gros, elle dit aux enquêteurs, 20 ans après, vous êtes trompé. Vous avez cru résoudre cette enquête et en fait, vous avez fauté, sauf qu'elle disparaît. Elle disparaît, donc deuxième enquête. Et le même enquêteur que celui de 94 reprend finalement du service alors qu'il est en train de partir à la retraite. Il rouvre le dossier et vous l'avez dit, il y a 30 personnages qui se catapultent, qui se lient dans cette petite ville d'Orphéa. Un ancien policier devenu dramaturge, le rédacteur en chef du journal où travaillait la disparue, un libraire, le maire d'Orphéa. Il va être question de théâtre aussi, au sens propre comme au figuré. Il y a le théâtre du crime, et puis le vrai théâtre, la pièce de théâtre. Et vous vous amusez un peu, comme Jean-Christophe Ruffin d'ailleurs, beaucoup avec ces codes du polar, puisque ce ne sont pas des polars, on a compris. Tout comme vous amusez avec les points de vue, puisque chacun des personnages semble défiler à la barre de ce roman pour s'adresser au lecteur. Alors Stéphanie Maillard, c'est le nom de votre héroïne disparue à Orphéa. Dans la mythologie, Orphée est celui qui va jusqu'aux enfers récupérer, ou plutôt tenter de récupérer celle qu'il aime et qui est morte, qui est disparue, là, au sens le plus fort du mot. Quel rôle a joué la mythologie dans le nom de ce théâtre du crime ?
Je suis très attaché à la mythologie grecque. Je suis attaché au grec ancien et au latin, qui sont pour moi des éléments fondamentaux de la société dans laquelle on vit, de la langue qu'on parle. Et j'avais envie de ce petit clin d'œil. Alors, il y a un festival de théâtre, avec cette allusion aussi au théâtre grec, avec des personnages qui, parfois, dans le livre, portent le masque, au fond, que les acteurs portaient et qu'ils les font symboliser toute une profession, tout un genre. On dit aujourd'hui le terme caricatural, qui peut être pas très sympathique, mais au fond, caricatural, ce sont tous les éléments qui permettent d'identifier quelqu'un comme appartenant à un genre ou une profession. Et il y a Orphéa, effectivement, c'est quand Orphée recherche Eurydice et qu'il a réparé, au fond, il y a cette retrouvaille et il ne doit pas se retourner, non. Et il se retourne quand même. Et c'est la question, tous ces personnages sont en quête d'une réparation, et à quoi tient la réparation ou à quoi ne tient-elle pas? À soi-même, au fond.
Je vois opiner, ne te retourne pas, Orphée, Jean-Christophe Ruffin.
En fait, moi, là où je pourrais me reconnaître, dans cette description du retournement et de ses dangers, c'est que le personnage qu'on va retrouver mort sur son bateau, cet homme qu'on va retrouver mort sur son bateau, au fil de l'enquête, on va se rendre compte qu'en fait, sans révéler forcément les choses, mais on va se rendre compte que cet homme a eu deux vies et que, au fond, la deuxième vie, celle qui va le condamner à mort, d'une certaine manière, est une vie qui est tournée vers ce passé. C'est-à-dire que pour essayer de se racheter de ce qu'il n'a pas pu faire dans sa première vie, il va prendre des risques dans sa deuxième vie. Et c'est un peu l'histoire de Lord Jim aussi, vous voyez. Lord Jim qui, d'une certaine manière, échoue dans une première épreuve et qui va tenter de se racheter de façon dramatique et tragique dans la deuxième. Voilà. Et au fond, c'est métaphoriquement la même chose qu'Orphée, quoi. C'est ce retournement sur le passé qui est mortel.
Deux romans orphiques aujourd'hui. J'ai pensé aussi, moi, évidemment, à Norman Mailer, à cause du nom, mais ça va un petit peu plus loin, parce que dans votre roman, Joël Dicker, l'intrigue rebondit au moment où on fait une découverte macabre dans un lieu qui s'appelle le lac des cerfs. Évidemment, j'ai pensé au parc aux cerfs de Norman Mailer. Alors oui. Là encore, c'est... Bah, j'imagine que c'est voulu, mais...
C'est un petit clin d'œil, mais qui est venu à l'envers, sans qu'on sache très bien comment l'inspiration est gérée par le cerveau, parce qu'est-ce que j'ai parlé du lac des cerfs par rapport au parc aux cerfs, probablement, mais j'ai dû changer le nom de Stéphanie, parce qu'en fait, au début, j'avais envie de l'appeler Stéphanie Meyer, et quelqu'un m'a parlé de Stephanie Meyer, qui est l'auteur de Twilight, et j'avais pas du tout fait le lien. C'est le problème de Google aujourd'hui, parce que vous rentrez un nom pour voir si quelqu'un l'a déjà dans le monde, et il y a 50 personnes ou 200 000 personnes qui l'ont. Donc finalement, j'ai opté pour Mailer, parce qu'il y avait ce clin d'œil aussi, et qui m'a fait penser au parc aux cerfs.
Marc Aurèle, vous-même, vous faites référence à l'empereur Sévère aussi, Félix aussi.
Non, c'est parce qu'il... Non, parce
qu'il... Le choix de ce nom...
Aurèle, c'est un nom roumain assez courant, enfin un prénom plus exactement. Mais les attributs romains, c'est juste parce que c'est décalé par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est tout à fait un peu ridicule. Enfin, c'est un peu un chien battu, ce pauvre Aurèle. Mais en même temps, il a une conscience aiguë de sa dignité. Et alors, quand tout le monde se moque de lui, la façon dont il est accoutré, etc., tout le monde se moque de lui, il s'en sort en disant que, bon, les empereurs romains avaient des titres qu'ils se donnaient à eux-mêmes. Et que, par exemple, le titre Félix, être heureux, ça n'est pas quelque chose qui vous vient de l'extérieur. On le décrète. C'est un élément de souveraineté. Et lui disait, moi, voilà, Sévère, Félix. Et au fond, il se convainc lui-même qu'il porte une dignité que tout le monde, évidemment, lui conteste, parce que c'est pas ce qui frappe au premier abord. Mais voilà, ça fait partie de cette espèce d'écartèlement de ce personnage que moi, je trouve très attachant, parce que justement, il n'est bien nulle part. Et pourtant, il a une personnalité très forte.
Il lui reste 6 mois à tirer. Dans ce placard, comme il le dit à la fin du livre, je n'ai rien dévoilé. Jean-Christophe Ruffin, vous disiez, bon, c'est pas un polar, c'est une enquête. Beaucoup de vos livres, Globalia, Le Parfum d'Adam, même Rouge Brésil, au fond, ou Le Roi Zibeline, il y a cette dimension d'enquête. Là, quand même, on est, même si vous refusez le mot de polar, il y a quand même un certain nombre de codes avec lesquels vous jouez, de codes du polar. Ou du roman noir. Est-ce que ça a été un peu le cahier des charges pour vous, de dire je vais m'amuser avec ce genre, un genre qui convoque évidemment des stéréotypes, des situations clichés, forcément, un meurtre, une enquête, des fausses pistes. Bon, est-ce que vous avez dit voilà, je vais cocher un certain nombre de cases. C'est votre premier polar vraiment avec un héros qui sera récurrent, puisqu'il y en a deux autres qui sont prévus.
Oui, parce qu'Aurèle, je l'aime bien, j'ai envie qu'il se balade. Alors il fait une carrière calamiteuse, ce pauvre homme, parce que comme il travaille pas, on le fiche toujours dans des placards pas possibles. Donc il se retrouve toujours dans des postes que personne n'a envie d'être. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on peut le mettre vraiment dans des endroits où il a vraiment de matière à trouver des choses à faire et à voir et à montrer surtout. Voilà, moi j'ai pas cherché spécialement à m'imprégner de ces codes. Bon, j'ai lu comme tout le monde des polars, bien entendu. Moi, je suis un petit peu, peut-être compte tenu de mon âge ou de mes goûts, j'en sais rien, mais je suis un peu à l'ancienne hein, dans mes goûts de polar. C'est-à-dire que je suis plus du côté de Simenon que du côté des derniers, des polars les plus récents. Mais c'est marrant parce que quand j'étais en train d'écrire ce livre, avant de l'écrire, j'avais discuté avec Pierre Lemaître, que j'aime beaucoup et qui lui fait des polars. Alors là, vraiment, dans toute l'acception du terme, hein, puisqu'il a même reçu tous les prix pour ça. Et il m'avait dit, n'écris pas un polar, écris un livre avec un crime. Et c'est vrai qu'en anglais, ce serait d'ailleurs moins ambigu, parce que crime story. Novel, oui, crime story, ça serait. Mais en français, ce terme polar, vous savez, dès qu'on entre en France, on aime bien les, c'est pas aux Normands que je vais dire ça, mais les champs de bocage, vous voyez, c'est avec des haies tout autour. Ouais. Alors quand vous parlez de science-fiction, vous avez parlé de Globalia tout à l'heure, dès que vous empiétez sur
les anglo-saxons étiquettent de la même façon, hein, romance, new romance.
Oui, oui, mais je pense que crime novel est plus ouvert. Et en France, on a un territoire du polar qui est assez balisé. Et en effet, si on entre dedans de façon explicite, en se disant, voilà, je vais publier dans la série noire ou dans chez Rivage, etc., à ce moment-là, il faut vraiment, on est vraiment jugé sur le respect de ces codes.
Et vous, Joël Dicker, est-ce que vous revendiquez, comme Jean-Christophe Ruffin, finalement, la volonté de... Peut-être de vous échapper d'un genre qui serait trop corseté, étiqueté, une sorte de moule un peu pétrifié, même qui serait le polar ou le roman noir ou le thriller.
Oui, mais je crois en plus que quand on lit de tout, c'est-à-dire que vraiment je suis ouvert à la lecture de façon générale, parce que ça m'intéresse, parce que j'ai envie, parce que ce livre me tente ou un autre, je crois qu'on surfe après beaucoup sur tout ce qui nous plaît. C'est comme quand on cuisine, je crois que si on a envie de faire des spaghettis ou une pizza, on peut commencer par faire avant quelque chose d'autre qui ne soit pas un antipasto de l'Italie, mais quelque chose, un autre... On a le droit de mélanger ce qu'on aime.
C'est très juste.
C'est, le mélange est tellement important. Ouais. Et c'est pour ça que quand il faut... Alors je comprends que pour des libraires ou pour en parler, il faille essayer de le définir à peu près, mais c'est compliqué quand on a envie de toucher à tout.
Mais ma question, en fait, elle se pose à vous. C'est-à-dire que vous, quand vous écrivez La disparition de Stephanie Meyer, vous ne vous dites pas « Je suis dans le cadre d'un polar ou d'une crime story ou, ».
J'ai aucune limite. D'ailleurs, j'ai pas du tout de plan, donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer.
Il faut quand même un meurtre.
Le meurtre arrive après, parce que le début de l'histoire, c'est ces personnages. Je me retrouve avec des personnages dont chacun a une histoire qui m'intéresse. Ils vont chacun, je sais ça à ce moment-là, ils ont chacun une idée de réparation. Ils ont chacun, il y aura pour chacun, en tout cas pour moi, la projection de savoir mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce moment-là. Orphée, Eurydice, est-ce qu'on ne se serait pas retourné pour être sûr qu'elle nous suit?
C'est compliqué, moi,
parce qu'on n'arrive pas à se dire
quand
mais pourquoi
Dieu
il a
vous
fait
dit,
ça.
Tu te retournes pas, tu te retournes pas.
Mais c'est compliqué pour être vraiment sûr.
En tout cas, vous êtes d'accord tous les deux, il faut un crime. C'est ça, ça s'appelle pas polar. Mais dans ces romans-là, il faut un crime. Vous pensez que...
Forcément, ça peut être une disparition, ça peut être... C'est tout ce qui constitue la base d'une énigme, c'est-à-dire que... Mais moi j'ai, vous savez, un problème similaire, mais je crois que j'ai réussi là, à m'en sortir mieux, avec les romans historiques. Bon, c'est-à-dire, j'ai écrit des romans qui se déroulent dans le passé lointain, bon, que ça soit Jacques Coeur ou Rouge Brésil, etc. Et au début, on voulait m'enfermer dans cette histoire. Ce sont des romans historiques. Et je disais, non, moi, le temps du récit, c'est le passé. Je sais pas quand commence le roman historique. Il faudrait qu'on me dise à partir de quel moment on bloque le chronomètre. On dit, voilà, est-ce que quelque chose qui se passe en 1942, c'est historique? Est-ce que c'est 1975? Est-ce que c'est historique? Bon. Et c'est la même chose. Et je pense qu'il faut s'affranchir de tout ça. C'est-à-dire, quand on a envie de raconter une histoire et quand on est romancier, c'est-à-dire qu'on a envie de mettre en scène des mondes intérieurs et des mondes sociaux, des mondes géographiques aussi et politiques et le monde, eh bien, il faut se dire que forcément, on entre sur le territoire des uns ou des autres. Alors, on va entrer sur le territoire du roman historique ou du roman policier. Mais peu importe.
C'est un genre cannibale, de toute façon, le roman.
C'est un genre cannibale, voilà. Et il faut surtout se garder de ces appropriations comme ça. Bon, en sachant qu'on vient sur ces territoires. Mais vous avez, si je peux ajouter juste une chose par rapport au roman noir, vous avez dit roman noir tout à l'heure. C'est vrai que le roman policier en France est souvent associé au roman noir. Et moi, par exemple, on a fait le choix, même sur la couverture, de mettre des couleurs, parce que c'est tout à fait le contraire d'un roman noir. C'est pas noir. Il est plein de couleurs. Et justement, il découvre, à travers cette enquête, tout un monde qui est un monde coloré.
Oui, c'est très vrai. Ce sont des romans de vie. Et dans le noir, souvent, il n'y a pas beaucoup de vie. Hein. En tout cas, tel qu'on imagine la notion de roman noir, on imagine une atmosphère pesante, on imagine le flic bourru, on imagine un crime plein de sang.
Voilà, les codes, toujours.
Ouais. Les codes sont là. Ouais. Et on n'est pas du tout là. Et c'est pour ça. C'est, mais c'est très fort ce que vous dites. La question que le roman historique, à quel moment est-ce qu'on en est un ou on n'en est pas un, c'est exactement ça.
En tout cas, vous affranchissez des codes aussi. On va le voir avec le théâtre, avec toute cette métaphore qui se déploie.
Oui, mais je sais pas
ces gens qui veulent être acteurs dans cette ville d'Orphéa. Ouais.
Mais est-ce que je m'affranchis des codes ou est-ce que simplement j'écris dans la liberté que la fiction nous offre, c'est-à-dire faire absolument ce qu'on veut sur du papier? C'est ça pour moi qui est très important. dans la littérature du roman, c'est la liberté. Et les codes, je trouve, sont une entrave à la liberté.
Alors, on s'affranchit des codes avec vous deux, Joël Dicker et Jean-Christophe Ruffin. On va commencer avec vous, Jean-Christophe Ruffin, et c'est Suspendu, ce Suspendu de Conakry, qui paraît chez Flammarion. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi, alors, Ablaï Sissoko.
Oui, Ablaï Sissoko, qui est un grand joueur de kora. La kora, c'est un instrument assez extraordinaire d'Afrique de l'Ouest, Afrique sahélienne. Et c'est une sorte de grande, comment on va appeler ça, une contrebasse.
Oui, oui, on voit, c'est très beau.
C'est un instrument à cordes, en tout cas. Et il y a des virtuoses, et Ablaï Sissoko en est un.
Alors, on écoute Na.
France Culture, le temps des écrivains, par Christophe Onodibio.
Ablaï Sissoko, Na, c'est le choix de Jean-Christophe Ruffin qui publie chez Flammarion Le Suspendu de Conakry. Alors son premier non polar, parce qu'il n'aime pas le nom polar.
Roman, c'est
voilà,
tout,
ouais. Son roman. Alors Jean-Christophe Ruffin, ce Suspendu de Conakry, le titre finalement pose le décor, la scène primitive de ce livre, donc qui sera en fait le premier d'une série, donc avec un personnage récurrent, Aurel Timeshkou. Scène primitive, un homme dans la marina de Conakry, donc en Guinée, est retrouvé suspendu par les pieds. Je vous lis. La foule regardait le corps suspendu, une ligne continue d'Africains, hommes, femmes, enfants, occupaient le quai et toute la digue jusqu'à la bouée rouge qui marquait l'entrée de la marina de Conakry. Les regards se portaient vers le sommet du mât. Comme la marée était haute, la coque du voilier était presque au niveau des bords du bassin. Le corps se découpait sur le fond uniformément bleu du ciel tropical. On le voyait très loin. Au balcon des villas du front de mer, de nouveaux résidents, tout juste éveillés, fixaient cette image d'horreur. Certains avaient eu le temps de sortir des jumelles. Ils avaient reconnu dans la victime un homme blanc, attaché par un pied. Il avait les mains gonflées et sur son visage écarlate avaient ruisselé quelques filets de sang. Ce sont les premiers mots de ce nouveau livre. À partir de là, une femme va surgir, une Africaine nue sur le pont de ce voilier, et un enquêteur qui arrive sur la scène du crime, un enquêteur qui ne devrait pas enquêter puisqu'il est consul, un drôle de consul, roumain tout en étant diplomate français. Drôle de consul aussi parce qu'il joue du piano lorsqu'il réfléchit à l'élucidation d'un crime. Drôle de consul qui va se retrouver lié à la sœur de la victime et qui nous plonge dans la réalité de ce pays, la Guinée, et la réalité des êtres humains qui y passent, un peu trop de temps d'ailleurs parfois. Votre roman décrit une enquête sur un crime, ce qui l'inscrit a priori dans le genre du roman policier. Mais ce choix de situer l'action en Guinée, c'est la première question que je voudrais vous poser, est-ce qu'elle est l'occasion aussi d'un décentrement? Non pas qu'il n'y ait pas de polar en Afrique, mais en tout cas, il y en a moins qu'aux États-Unis, on en parlera avec vous, Joël Dicker, qui vous aiderait finalement à repenser le genre. Je vous cite encore. Aurel se demandait si Maillère, c'est la victime, avait choisi ce lieu du monde, s'il l'avait aimé ou si d'autres raisons l'avaient retenu à Conakry malgré lui. Quel charme pouvait-on trouver à une telle vie? Il y avait le soleil toute l'année, d'accord, mais pour Aurel, ce n'était pas un avantage. Au contraire, il aimait les saisons et n'en aurait jamais sacrifié trois pour vivre dans un perpétuel été. C'est vrai que le perpétuel été, c'est pas la saison du polar.
Mais non, c'est d'ailleurs, je vous dis, c'est pas du tout un roman noir, c'est un roman plein de soleil. Simplement, le soleil peut être tragique. C'est Giono qui disait ça quand, dans un des derniers entretiens qu'il a donné avant sa mort, il disait qu'au fond, il aurait préféré situer ses livres en Écosse, parce qu'au fond, c'était des livres qui traduisaient bien ce que le soleil apportait de tragique, justement, dans la vie. Et la lumière écossaise, c'est avec son côté tragique, c'était quelque chose qui avait retrouvé en Provence. Là, c'est pareil, moi, j'ai toujours pensé, pour y avoir pas mal vécu, que la lumière africaine, que cette espèce de violence, un des éléments qui peut être considéré comme agréable, hein, quand on passe 8 jours, ça va, si vous partez dans un hôtel 8 jours, mettre les doigts de pied en éventail sur une plage, bon, c'est sympa. Mais au fond, pour ceux qui y vivent et ceux qui, pour lesquels c'est un destin dès le début de leur vie, c'est quelque chose de tragique. Et pour Aurel, c'est encore plus, parce que lui, c'est un homme d'Europe centrale et il est très attaché à cette Mitteleuropa dont il transporte d'ailleurs avec lui le parfum, puisqu'il reconstitue dans sa maison, dans son petit appartement, il reconstitue l'ambiance comme ça. Il y a des Klimt au mur et puis il joue des airs
des reproductions,
etc. Pas des vrais. Puis il joue des airs de Kurdweil, puis il boit du Tokay. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui reste attaché à ce monde que pourtant il a détesté parce qu'il en a fui les excès.
Et c'est ça qui vous intéresse, le fait d'implanter justement quelqu'un qui vient d'un autre univers, justement, dans cette Afrique que vous connaissez bien, comme s'il fallait dynamiter aussi un peu les règles qui pourraient.
Oui, parce que si vous voulez, il n'arrive pas en Afrique en disant ah, c'est merveilleux avec un chapeau de paille, ah, c'est formidable, etc. Non, lui, il a un gros manteau en tweed, il fait une chaleur de bête, mais il garde son manteau, il garde son costume croisé, il est habillé comme il le serait à Bucarest. Et il n'a pas de sympathie pour ces pays, pas du tout. En revanche, il a sans doute beaucoup plus de sympathie et il suscite beaucoup plus la sympathie des Africains que ne suscitent les autres Européens qui arrivent en trouvant ça formidable, mais qui finalement sont très en décalage. Et lui, ce qui va le révolter, par exemple, c'est que cet Africain qui est à bord de ce bateau soit accusé de ce crime. Et il va prendre fait et cause pour elle, de toute façon.
Donc, exactement. Mam Fatim. Exactement. ce que je disais par rapport à ce personnage, vous dites, emmitouflé, bon, il y a beaucoup d'amusement, on sent, dans ce livre, justement sur ce profil d'enquêteur, d'en faire justement quelqu'un qui ressemble à tout sauf un enquêteur. Il y avait la volonté chez vous là de fracasser un peu le corset du sérieux qu'imposerait le roman de crime.
Oui, parce que je pense que le sérieux n'est pas dans le sérieux, c'est-à-dire que Aurel, avec tout ce qu'il y a de burlesque, est finalement beaucoup plus sérieux que les vrais enquêteurs, les vrais policiers qu'on croise dans le livre, et qui, eux, passent plutôt pour des charlots dans l'affaire, puisqu'ils se trompent en réalité, alors que lui va aller beaucoup plus au fond des choses. Donc finalement, le sérieux, moi, je n'ai jamais donné beaucoup de valeur au sérieux.
Non, mais par rapport aux gens et à la présence de la mort, c'est vrai qu'il y a un suspendu, qui est mort, le sang qui coule, et puis ce personnage un peu grotesque, parfois.
Oui, enfin, Aurel, il a décidé une fois pour toutes, bon, il est entré dans la diplomatie un peu par hasard, il se sent un peu ridicule de dire, voilà, avec son gros accent, je suis consul de France, je demande de lui faire répéter 2 fois parce qu'on a l'impression que, voilà, c'est pas possible. Et puis, il ne veut rien faire. Il ne veut rien faire parce que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il n'aime pas ce milieu, etc. Donc, on le met dans des placards, il désespère ses chefs, il désespère tout le monde, sauf que c'est un type extraordinairement intelligent et de valeur quand ça l'intéresse. Et quand il se met à creuser, à fouiller, là, en effet, il est très efficace.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé quand même si on a compris, hein, on n'est pas dans le roman noir, mais quand même à embrasser ce fil directeur d'une enquête sur un meurtre par un personnage qui va être récurrent, donc comme dans les séries, finalement, de polar. Qu'est-ce qui vous a poussé, puisque c'est la première fois vraiment que vous faites ça à ce point?
Parce que justement, alors ce qui me gêne le plus, si vous voulez, c'était pas d'écrire le livre, c'est d'en parler, parce que je ne sais pas parler d'un polar dans la mesure où dès qu'on s'approche d'une description un petit peu de ce qu'on a voulu raconter, on vous dit attention, ne révélez pas le livre.
Sur les raisons.
Le livre. Oui, mais moi je pense que justement ce qui me paraît le plus intéressant, et malheureusement je peux pas en parler, c'est justement ce qu'il découvre, c'est-à-dire que ce qui est le vrai sujet du livre.
On peut dire trafic.
Voilà, pas seulement le trafic, le trafic, et surtout c'est ces personnages. Comme ce suspendu, cette pauvre victime, ce pauvre homme qui va le payer de sa vie finalement, ces gens qui, d'une certaine manière, se mettent au service d'une cause, qui est une cause évidemment terrible. En fait, cet homme, en réalité, va travailler pour les services
français. Oui, voilà, on va s'arrêter là.
Et en fait, oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous voulez, il se rachète. Et il rachète des faiblesses passées, c'est ça qu'on va découvrir dans ce passé, comment ce passé va définir ses choix d'aujourd'hui. Il va se mettre à jouer un rôle gratuitement, d'une certaine façon, qui a un rôle à risque. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé et qui m'a toujours passionné. Et là, on est plus du côté du roman d'espionnage, d'ailleurs, que du roman policier. Parce qu'au fond, le cœur du livre est plutôt, je veux dire, de nature politique. Hein. C'est-à-dire que ce qu'il fait, cet homme, et ce qu'il va payer de sa vie, c'est un engagement qui est un engagement d'espionnage, tout simplement. Mmh. Voilà. Et ça, ça m'intéresse beaucoup parce que cette façon dont des bénévoles, des gens dont c'est pas le métier, vont collaborer comme ça avec des services dans des pays comme ça, et c'est fréquent.
D'accord, mais dans le ton, parce que je me souviens de Katiba, par exemple, où il y avait ces mêmes problématiques d'espionnage, oui, de terrorisme, mais c'était pas le même registre, c'était pas la même sonorité, c'était pas le même ton. Là, on sent quand même une distance. Ce personnage, par exemple, vous l'avez dit, qui est ridicule avec ce grand manteau, on sent à la fois, non pas la moquerie des gens qui travaillent avec lui, beaucoup de tendresse aussi de votre part. Il y a quand même la volonté de traiter, je trouve, hein, pour la première fois, ces sujets-là qui sont très sérieux. Sujet d'ordre d'espionnage, de trafic, bon, de DST, enfin, vous en parlez aussi. Aurel lui-même a été interrogé par la DST quand il était arrivé en France, mais d'une façon très, très distanciée par l'humour. Oui. C'est vrai que c'est assez rare chez vous, en fait, l'humour. Et puis dans les livres, pas chez vous.
Gentil.
Mais dans les livres. Mais c'est vrai que, non, mais Globalia, oui, oui. Le parfum d'Adam, Rouge Brésil n'étaient pas.
Non, c'est pas des
romans drôles. Des
opinions,
non, là, la vis comica, elle est là.
Mais oui, oui, parce que c'est un personnage. Oui, comique, mais comico-tragique. C'est-à-dire qu'il est comique par son décalage, par sa souffrance, d'une certaine façon. Mais il est, c'est vrai qu'en première vue, il est totalement burlesque. Mais c'est à la fois ce qui lui donne sa puissance aussi. Parce que, du coup, comme il fait pas de carrière, comme il s'en fout, comme il va pas, il sait qu'il ne progressera jamais, que le Quai d'Orsay va toujours l'envoyer dans des endroits pourris, parce qu'on peut pas le foutre à la porte parce qu'il est titulaire. C'est ce que c'est. C'est bon, alors en France, c'est sacré. Donc il est titulaire, donc il est là à vie, mais il est à vie dans des endroits où il ne veut pas être. Voilà. Et dans des postes où il ne veut pas être. Donc, c'est un ressort
qui est contraire à la définition d'un écrivain, en fait, qui a fait toute sa vie dans des lieux où il veut être parce qu'il choisit d'y être, Joël Dicker, au fond.
Mais oui, mais vous savez, c'est amusant et ça me plaît beaucoup d'en parler ici parce que Jean-Christophe Ruffin aussi. Alors, si je vous suis sur Instagram, je vous le dis avant, je suis fasciné parce que si je ne me trompe pas et que j'ai bien vu, votre bureau est donc dans la montagne, face à la montagne. Et pourtant, vos romans se passent ailleurs, même quand vous partez dans ces montagnes, c'est les montagnes qui vous emmènent à Compostelle. Checkpoint aussi vous emmène ailleurs. Le Collier Rouge aussi, bon, c'est la France, mais c'est une autre période. Il y a un décalage. Et je vous parle de ça parce qu'au fond, je crois que d'une façon peut-être moins riche que la vôtre, et peut-être parce que j'ai aussi un parcours qui est moins riche, vous avez beaucoup voyagé par vos autres vies.
Vous aussi.
Moi aussi, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aujourd'hui une attache aux États-Unis qui n'est pas inspiratrice, qui n'est pas fasciné, qui est simplement que pour moi, ça me permet d'être à Genève chez moi et d'écrire une fiction qui se passe ailleurs, parce que le plaisir pour moi est dans l'invention. Et que j'ai l'impression que d'écrire une histoire, j'aurais pu
écrire cette
histoire.
Oui, vous n'avez pas été policier alors que Jean-Christophe Ruffin a été diplomate. Voilà, mais, et ambassadeur.
Ouais. Oui, mais c'est-à-dire que, et ici aussi, à Conakry, j'ai l'impression, alors là, je peux parler que pour moi, mais je retrouve des endroits que je connais bien, parce que je connais très très bien la côte Est, et qui me permettent d'avoir une facilité dans la narration, une forme de crédibilité, et en même temps d'être loin de chez moi, loin de Genève, ça m'offre une forme de liberté totale. Et j'ai l'impression que j'aurais pas cette liberté si je la faisais en Suisse, parce que Genève, ça serait le parc où je vais, le café où je vais, là où je vis vraiment.
Ah oui, et puis attention, alors justement, oui, il pourrait y avoir des pudeurs ou des risques que vous affrontez, Jean-Christophe Ruffin, avec bravoure. Je vous cite le chargé des visas, par exemple, qui s'appelle Le Maîtrier. Tenant ses lunettes de myope entre le pouce et l'index de la main gauche, tandis que la droite était pourvue de la seule arme qu'il eût jamais maniée, un stylo bille rouge. Là, il y a l'espèce de volupté méchante du fonctionnaire qui, en fait, dit oui ou non d'un trait, quoi, sur des documents. Vous êtes déjà venu à Conakry? Jamais. Donc, ça répond la nouvelle venue. Et le diplomate répond, à vrai dire, je ne connais pas l'Afrique. Aurel faillit dire, moi non plus. C'est-à-dire que vous ne cessez dans ce livre de donner un portrait des services diplomatiques, donc vous avez connu, très drôle et très méchant aussi. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas là quand même une petite, grâce au roman, pour se venger ou faire un peu de dérision aussi sur ce milieu que vous avez très bien connu. En plus, il va revenir dans deux autres livres, donc on va en entendre parler des ambassades de France en Afrique.
Moi, j'ai eu ce problème très tôt quand j'ai commencé à écrire et que je suis médecin. J'ai prêté le serment d'Hippocrate et on nous a fait jurer, quand on a terminé nos études, qu'on ne révélerait pas ce qu'on voit en entrant dans les maisons. Donc, si vous voulez, ça nous place tout de suite dans une position difficile quand on écrit. Parce que si on met en scène des choses ou des gens qu'on a connus, évidemment, on commet une indiscrétion terrible par rapport au secret professionnel. J'ai eu le même problème avec les diplomates qui sont tenus aussi un devoir de réserve. Donc, comment on résout ça? Bon, bah, soit on se tait, puis on, voilà, s'il faut faire, rester chez soi. Soit, si on veut écrire quand même, il faut se décaler. Il faut se décaler. Alors, précédemment, je me suis décalé dans le temps en racontant des histoires qui se déroulaient dans le passé. Et ça, ça permet de faire des portraits présents de gens que vous avez connus, mais simplement vous les situez au XVIIe siècle, vous êtes tranquille. Soit, effectivement, vous les décalez dans une fiction. Ouais. C'est ce que j'ai fait là. Mais évidemment, cette fiction n'est pas totalement dépourvue de chair, j'espère.
C'est-à-dire qu'Aurel a existé. Il peut avoir un modèle.
Alors, Aurel est inspiré de différentes personnes. Mais en fait, ils ont tous... C'est ça qui fait, la richesse d'un livre. C'est quand même quand, non pas que ça décale qu'une personne en disant « c'est un tel », non. Mais il faut quand même qu'on raconte des choses... Surtout quand on se situe dans le présent, qui existe, enfin qui se rapporte à quelque chose d'existant.
C'est-à-dire que le serment d'Hippocrate ne peut pas avoir de toute façon de valeur ou même d'existence quand on est romancier.
Si, c'est-à-dire que le personnage-là de l'homme à l'étrier, il ne faut pas qu'il puisse se reconnaître. Bon.
C'est quoi les limites, c'est ça? C'est en fait brouiller suffisamment pour que personne ne
se reconnaisse? Il ne faut pas faire de mal à des personnes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas personnaliser une attaque ou une caricature. Mais en revanche, quand on la décale d'une personne, et qui ne peut pas se reconnaître directement ou qu'on ne peut pas lui imputer la responsabilité de ses défauts, mais que c'est plus collectif, là, on a le droit. On a le droit d'écrire le milieu diplomatique sans faire de mal à personne.
Et vous,
c'est truculent comme ça. Vous voyez, c'est truculent d'avoir ce fonctionnaire dans la caricature un petit peu, mais dans le vrai et bon mot de la caricature. Un roman, c'est aussi une fiction qui nous emmène quelque part d'autre. Et c'est un peu un jeu. Et je trouve que si on n'est pas capable de lire un roman avec le deuxième degré ou le troisième ou
le
cinquième.
Les lecteurs, même. Parfois, si quelqu'un se reconnaît, c'est pour ça que je demandais.
Mais je crois pas qu'on puisse
quand on écrit sur une expérience,
que...
évidemment, des gens vont se...
Oui, mais
vont
quand on a un fonctionnaire comme ça, tel qu'on l'imagine, avec tous les vices que... Ce qui n'est pas représentatif de la représentation, mais c'est pas la profession ici, c'est le personnage. Et c'est beaucoup plus drôle et beaucoup plus truculent comme ça que si vous avez un fonctionnaire très méticuleux qui fait ce qu'il doit faire et qui est très actif.
Il est assez truculent. On vous écoute, Jean-Christophe Ruffin, lire, voilà, c'est l'arrivée sur les lieux du crime de votre personnage.
Il était midi quand le chauffeur déposa Aurel, membre du service consulaire de l'ambassade de France, à l'entrée de la marina. Malgré sa petite taille et ses membres fins, il lui fallut déployer beaucoup d'efforts pour s'extraire de la voiture. C'était une Clio à deux portières, le véhicule le plus modeste et le plus déglingué du service, le seul que son patron, le consul général, l'autorisa à utiliser. Aurel se comportait comme s'il s'était agi d'une grosse berline. Il faisait basculer le siège du passager et s'asseyait sur la banquette arrière prévue pour un enfant en bas âge. Il s'installait avec dignité, les genoux à la hauteur du menton et la tête touchant le plafonnier. Il en ressortait avec le même air d'importance. Après tout, Sévère était un des titres des empereurs romains, tout comme Félix d'ailleurs. Aurel n'avait jamais perdu de vue, comme leçon de l'histoire, la dignité comme le bonheur sont des attributs de la souveraineté. Chacun d'entre nous peut s'en saisir s'il en a la volonté. C'est digne et heureux que le consul s'avança vers le clubhouse entre une double haie de palmiers royaux au garde-à-vous.
Grandeur et décadence de la diplomatie française, Jean-Christophe.
Oui, mais ça c'est une observation sur le vif, si je puis dire. J'ai observé comme ça parfois des fonctionnaires qui auraient bien voulu avoir des grosses voitures, mais alors on leur mettait des petites et ils se contorsionnaient pour monter quand même derrière, plier en huit, mais parce que, bon, c'était pas tout à fait ce qu'ils auraient voulu, mais ça représentait quand même leur idéal, c'est-à-dire d'avoir un chauffeur. Bon, voilà, ça fixe bien ce qu'est Aurel, c'est-à-dire qu'il a cette prétention à la dignité, alors qu'il a totalement ruiné sa carrière par ailleurs. Donc c'est pas de l'ambition, c'est autre chose, c'est une sorte de coquetterie presque.
On continue avec vous, Joël Dicker, la disparition de Stéphanie Mailer. On écoute votre choix musical. D'abord, vous avez choisi I'm a Mess de Ed Sheeran. On écoute.
Oh, I'm a mess right now, inside out, Searching for a sweet surrender, but this is not the end. I can't work it out. How? Going through the motions, going through us. Though I've known it for the longest time, and all of my hopes, all of my words are all overwritten on the signs. When you're on my road, walking me home, 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 home. See the flame inside my eyes. It burns so bright. I wanna feel your love. No, easy, baby. Maybe I'm a lie. Before tonight, I wanna fall in love. Put your faith in my stomach. I messed up this time. Late last night. Drinking.
Ed Sheeran, I'm a Mess, c'est le choix musical de Joël Dicker. C'est ce que vous avez écouté pour écrire la disparition de Stephanie Meyer.
Entre autres, et notamment parce que c'est un musicien qui fait toute sa musique tout seul. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend là, et c'est encore plus impressionnant quand on le voit en concert, il le construit lui-même avec ce qu'on appelle en anglais un looper, c'est-à-dire quelque chose qui tourne. Un créateur de boucles, il faut trouver des noms en français pour ces machines, et il crée des boucles musicales sur lesquelles il joue. Et il y avait cette construction qui part de rien et un peu du néant, c'est-à-dire du silence, et il en fait quelque chose où on ne sait pas très bien où il va au début, parce que c'est quelques sons, puis finalement tout se construit. Et j'aime bien cette approche, parce que je crois qu'un roman, c'est un peu quelque chose du même genre.
Un romancier est-il aussi un créateur de boucles, pourquoi pas ?
Oui, parce que le romancier doit bien commencer quelque part. Et alors, c'est pas du direct, hein, parce que le livre est repris, est relu, est coupé, mais les premières lettres, les premiers mots, les premières phrases, la première idée, c'est une première boucle. Et après, il y en a d'autres qui viennent dessus. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se fait par couche.
Alors, Joël Dicker, donc, la disparition de Stephanie Meyer, donc, suit la vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui vous avait valu le prix Goncourt des lycéens, le prix de la vocation, le grand prix du roman de l'Académie française. Ensuite, il y a eu le livre des Baltimore. Là, on est aux États-Unis, toujours dans une ville fictive qui s'appelle Orphea. Il y a deux enquêtes, hein, je le disais tout à l'heure, dans cette disparition de Stephanie Meyer. La première, en 1994. Qui n'a pas finalement été résolu. En tout cas, c'est ce qu'apprend l'un des personnages du livre, l'enquêteur. En fait, il s'est trompé. C'est une jeune journaliste qui lui dit qu'il s'est trompé 20 ans auparavant. Mais cette journaliste va, à son tour, disparaître. À l'époque, c'était un quadruple meurtre sur lequel il avait enquêté. La disparue, Stephanie Meyer, donc, est une journaliste. Elle savait visiblement quelque chose sur ce meurtre. Du coup, Jess Rosenberg, cet enquêteur de 1994 qui est en train de partir à la retraite, rouvre le dossier et persuade son collègue et ami de reprendre l'enquête. Il y a plein de personnages, hein, vous l'avez dit, une trentaine de personnages qui se trouvent liés finalement à cette constellation morbide. Un ancien policier devenu dramaturge, le rédacteur en chef du journal où travaillait la disparue, un libraire, le maire d'Orphea. Et il va être question de théâtre. C'est ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est pas seulement le théâtre, la scène du crime, mais le théâtre, le genre théâtral, la dramaturgie. Vous vous amusez comme un fou, Joël Dicker, dans ce livre, avec cette dimension théâtrale, aussi avec les points de vue que vous brassez, puisqu'on a l'impression, à la fois c'est unifié par une voie narrative, mais chacun des personnages s'exprime sur l'affaire, comme s'il était finalement à la barre d'un tribunal. Ça a été ça le protocole d'écriture, parce qu'on a l'impression qu'en fait ce processus, cette construction mime ce dont a besoin un enquêteur. C'est-à-dire qu'il a besoin sur un même événement d'avoir plusieurs voix, d'entendre des témoins. Donc cette mimésis-là, je la trouve très intéressante dans ce livre. Ça a été la...
Oui, mais c'est la question de la justice qui est un concept qui m'interpelle et qui m'intéresse beaucoup. J'ai fait du droit. Et la question de la justice, quand elle est en train d'être appliquée et qu'un procès a lieu et que le juge doit trancher, et trancher par rapport à quoi ? Par rapport à quelle est sa conception de ce qu'il s'est passé, par rapport à toutes les vérités qui sont face à lui. La vérité du coupable, de celui qui est présumément le coupable, la vérité des victimes, la vérité des témoins et toutes ces vérités se rentrent dedans parce que personne n'a vu la même chose vraiment. Dans des cas plus légers, un accident de voiture, on sait que les policiers qui arrivent et viennent voir le témoin qui a dit « moi j'ai tout vu, c'était une voiture rouge qui est partie par là ». Et l'autre a dit « non, moi j'ai tout vu, c'était une voiture blanche qui est partie par là-bas ». Et pourtant, ils ont vu exactement, ces deux personnes ont vu exactement la même chose. Donc, où est la vérité, puisque la vérité est mienne et vôtre? Comment est-ce qu'on définit tout ça?
Donc le roman est aussi là pour ça, et le romancier pour nous dire qu'en fait, il n'y a pas de vérité.
Il n'y a pas de vérité, ou alors il y a une vérité pour chacun.
Et ce qui est très frappant dans le travail de Joël Dicker, c'est que justement, il y a toujours cette mise en scène successive de différentes lectures de la même situation. C'est-à-dire qu'on lit les choses avec des points de vue comme ça qui font pivoter les choses et qui changent complètement le rôle. C'est-à-dire que le coupable devient victime, la victime devient quoi, etc. Et ça, c'est très intéressant. Ça rejoint d'ailleurs certains aspects d'Aurel qui est...
Aurel, donc l'enquêteur du suspendu de Conakry.
Voilà, qui par une partie de sa famille, enfin, cette disposition assez talmudique finalement à regarder tous les aspects d'une chose, et la justice ne peut naître que, enfin, je sais pas d'ailleurs si elle peut naître encore quand on a tout intégré. Je sais pas si la justice encore existe. Enfin,
c'est une bonne question. Où est la justice? Parce que la justice pour quelqu'un, elle est forcément injustice pour l'autre.
Il y a un côté quand même justicier souvent chez l'écrivain, surtout, vous en parliez tout à l'heure, Jean-Christophe Ruffin. Il s'agit aussi de revenir sur une expérience passée, de dire certaines choses sur une diplomatie, sur un
justicier
certain milieu.
Ou réparation.
Ah.
Mais c'est là où est la question, parce que la réparation...
Quelle différence faites-vous d'ailleurs?
La justice...
En tant qu'écrivain.
En tant qu'écrivain, la réparation, elle est, pour moi en tout cas, telle que je la vois, contrairement à la justice qui est une application forcée, la réparation, elle vient quand même de quelque chose de l'un et de l'autre. Et je crois que dans la réparation, il y a un partage avec l'autre, une volonté de faire voyage commun.
Qui serait le lecteur, alors, l'autre.
Qui serait le lecteur, par exemple. Alors que la justice, elle applique. C'est comme ça, un point, c'est tout.
Alors précisément, puisque vous parlez du lecteur, Umberto Eco, dans « Lector in fabula », avait une thèse. Pour lui, chaque roman a son lecteur modèle. Et pour le polar ou le non-polar, puisque tous les deux, vous êtes très précautionneux.
Le roman, vous le disiez bien, Jean-Christophe.
Mais les romans avec une enquête, justement, enclenchent aussi deux possibilités de lire. Soit se laisser embarquer dans l'histoire, soit exercer en plus ses talents, qu'on a ou pas, comme lecteur, de déduction. C'est-à-dire essayer de savoir où m'emmène le romancier. C'est-à-dire une distance critique par rapport à la narration, par rapport au récit. D'essayer de vouloir peut-être être plus malin que l'auteur. Quels sont les lecteurs modèles auxquels, si vous en avez un, auxquels vous pensez l'un et l'autre, Jean-Christophe Ruffin et Joël Dicker, pour ces livres-là?
Ben, c'est bien difficile, ça, alors, parce que le lecteur, il fait son marché, hein, dans ce qu'on lui propose. Non, ce que, moi, c'est pas pour ne pas répondre à votre question. Je voulais juste revenir à cette question de la réparation de la justice, parce que c'est très sensible aussi dans les livres de Joël Dicker. Il y a cette dimension du changement avec le temps, le changement des personnes, puisque, comme vous l'avez dit, il y a deux enquêtes, là. Et au fond, ça m'évoque le livre de Kundera sur la plaisanterie, c'est-à-dire où, quand on pourrait administrer la justice, hein, quand on a le coupable, d'une certaine façon, devant soi, ben, ce n'est plus le coupable, puisque le temps a passé, et que la personne que vous avez en face de vous n'est plus celle qui a pu commettre les faits 20 ans ou 30 ans avant. Donc, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a cette question de qui est coupable, et il y a cette question de qui est le coupable, qui est devenu le coupable avec le temps.
Alors, Joël Dicker, si vous acceptez de répondre à la question sur le type de lecteur,
oui,
celui qui déduit avant vous ou celui qui se laisse embarquer?
Mais je vous dirais que le premier lecteur, dans le vrai sens du terme, c'est moi-même, puisque je ne sais pas où je vais, j'ai pas de plan. Et que c'est une notion qui est importante, c'est pour ça que j'en parle ici, parce que comme je ne sais pas du tout ce qui va se passer, j'ai une seule ligne de conduite qui m'aide à savoir si je vais dans une direction qui est plus ou moins la bonne, c'est le plaisir que j'ai à suivre ce propre livre. Et quand je me lève, même tôt, que je me dis « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans le roman ?» Donc là, je suis le lecteur. Pour moi, ça veut dire que ce projet me plaît et c'est déjà ce qui est très important. Je crois que le roman est un jeu quand même. Hein. C'est-à-dire que le roman n'existe que parce qu'un lecteur veut bien jouer à ce jeu et que c'est pas une manipulation. C'est pas un lecteur qui suivrait comme ça et qui va où on lui dit. C'est le lecteur qui crée. Et que le roman n'existe pas si il n'y a pas un lecteur chez lui, dans le bus,
dans le métro,
qui accepte d'imaginer tout ça. Et ça, c'est très important.
Oui, l'auteur ne faisant que la moitié du chemin.
Oui, absolument.
Beaucoup l'ont très bien dit. Mais sur cette question, justement, du plan, de l'absence de plan, c'est vrai que vous revendiquez. Quand on a 30 personnages comme ça, quand on a deux époques, quand on a en plus une réalité qui est pas la vôtre, puisque les États-Unis, enfin, vous êtes suisse, vous écrivez en Suisse, même s'il y a eu quelques séjours et des repérages. Comment on se débrouille quand on a du mal à vous entendre dire, il n'y a pas de plan, il y a quand même quelque chose. Mais à part le plaisir d'écrire chaque jour.
Je précise que je n'ai pas de plan parce que c'est pas une construction qui se veut artificiellement de cette façon, ou c'est pas une recherche de. C'est vraiment un plaisir de lecteur. J'écris parce que j'aime lire et c'est parce que j'ai aimé lire que je me suis dit, mais est-ce que moi aussi je pourrais essayer de faire ça? Et le plan, si vous voulez, à fur et à mesure que j'écris et que j'arrive à comprendre un peu mieux où je vais, peu à peu il se fait dans ma tête.
Plan ou pas plan, je pense que ce que dit Joël, c'est définit en fait un certain type d'écrivain aussi. Et je crois qu'on appartient tous les deux à cette même catégorie, c'est-à-dire des écrivains de fiction. C'est-à-dire des gens qui ne racontent pas directement quelque chose qu'ils ont vécu ou qu'ils ont vu, etc. Même si les livres sont nourris d'expériences, de
Madame
décors,
Bovary,
etc.
C'est moi,
C'est moi. Et là, et ça, c'est assez rare, vous savez, parmi les écrivains contemporains. Il y en a quand même de moins en moins, je dirais, en tout cas peu, qui soient des écrivains de fiction, c'est-à-dire qui construisent et qui, pour moi d'ailleurs, c'est la partie, alors je prêche pour ma paroisse, mais enfin c'est la partie la plus noble et la plus difficile, je pense, hein, d'une certaine façon, de ce travail, c'est-à-dire de construire de façon cohérente quelque chose qui n'existe pas. Alors après, vous avez un plan, vous n'avez pas de plan. De toute façon, vous n'irez pas exactement là où vous voulez aller. Que même si vous avez un plan, ce qui est mon cas, moi je suis plutôt quelqu'un qui prévoit un petit peu où il essaie d'aller, mais à la sortie, de toute façon, ça ne ressemble pas à ce qu'on avait imaginé que ce serait.
Joël Dicker, il y a une dimension, on a parlé d'Orphéa, de la mythologie, la dimension orphique de ce roman. Il y a une chose qui est tout à fait étonnante dans ce livre. D'ailleurs, comme l'opéra chez vous, Jean-Christophe Ruffin, l'opéra qui se mêle à l'enquête, en fait, c'est le goût pour le théâtre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages qui se découvrent soudainement et de manière assez comique, puisqu'on est dans une enquête avec des meurtres, une vocation pour le théâtre. Le chef de la police, il y a un critique aussi qui se promène par là. Tout le monde veut faire partie de la pièce. Alors, le sens métaphorique, on le comprend bien. Il y a une double lecture. Mais que cherchent-ils ces personnages, notamment ce critique sur lequel je voudrais qu'on dise un mot, qui est quand même quelqu'un qui a des idées assez arrêtées sur sa conception de la littérature. Il dit « Je n'ai jamais, je dis bien jamais, rencontré un critique qui rêvait d'écrire. Les critiques sont au-dessus de cela. Écrire est un art mineur. Écrire, c'est mettre des mots ensemble qui forment des phrases », dit-il. Il prétend aussi, je le cite encore, établir la vérité, permettre à la masse de trier ce qui est bon et ce qui est nul. Vous savez, seule une toute petite partie de la population peut comprendre d'elle-même ce qui est vraiment bon. Nous sommes la police de la vérité intellectuelle. Voilà tout. Comme chez Ruffin avec la diplomatie, on a l'impression que cette vision du monde littéraire, vous l'avez un petit peu ressenti pour nous la resservir là.
Non, parce que justement, l'idée, on est dans le roman... On est dans la fiction.
Ne soyez pas gênés.
On est dans la truculence, mais je suis pas gêné parce que c'est le plaisir d'avoir un personnage qui est truculent. Et j'espère qu'en lisant ce personnage, j'espère que c'est le cas quand vous l'avez lu, j'espère que vous avez souri, j'espère que vous avez été amusé.
Surtout quand je lis ça.
Parce que c'est un personnage de théâtre qui va exactement là où on imagine qu'il irait. Et je trouve que ce critique comme ça, il a quelque chose pour la fiction de beaucoup plus fort et de beaucoup plus juste qu'un critique qui serait très juste et qui serait comme beaucoup de critiques, au fond, quelqu'un qui fait bien son job. Mais romanesquement, c'est pas intéressant. L'éditeur dans le roman d'avant, Kébert, il est complètement fou. Mais si je vous avais parlé de mes relations, mes véritables relations avec le mien, Bernard, qui était tellement belle et qui
nous a quittés
tellement extraordinaire
avec Paul Tchaïkovski-Laurence.
Bernard de Fallois, en tant que personnage de roman dans sa relation avec moi, c'était pas très intéressant. Il était tellement gentil, tellement doux et bienveillant en me disant prenez votre temps pour faire votre livre. Est-ce que tout va bien? C'est beaucoup plus drôle dans un roman d'avoir un personnage littéraire qui dit « Dépêchez-vous, je vous fous un procès aux fesses ». Donc voilà, c'est un peu ça qui est là.
Alors si on quitte justement ce personnage de critique, etc., c'est sur cette dimension théâtrale de faire partie de la pièce, dans cette petite ville Orphéa qui a un nom justement fictif, alors qu'on est aux États-Unis, c'est aussi étonnant. Conakry, on est dans la réalité, vous avez choisi, vous, un nom fictif qui convoque justement toute cette dimension de drame, de retournement, de péripétie, de théâtre au fond.
Oui, mais peut-être parce que je suis encore jeune écrivain et que c'est peut-être une difficulté que j'ai de pas être capable de créer de la fiction pure, puisque vous le disiez avant, hein, qu'on est dans la fiction, vous et moi, et c'est vrai, je crois que une de mes difficultés, une de mes faiblesses encore aujourd'hui, c'est de pas être capable de créer de la fiction pure dans un lieu, dans une ville qui existe vraiment, et que j'ai encore besoin de distance par les États-Unis et cette facilité, cette page blanche d'une ville fictive, parce que j'ai l'impression que à Genève, par exemple, je n'aurais pas cette même liberté uniquement parce que mon rapport à moi est encore peut-être un peu trop ancré dans cette ville.
Et ce critique s'appelle Meta Ostrovski, quand même. Meta, vous avez fait du grec ancien d'ailleurs. Meta est un préfixe aux multiples sens.
Oui, mais c'est bien qu'on est justement au-delà. On est
à côté, au-delà.
Mais donc il y a bien quelque chose dans le quelque chose et on est bien dans la fiction.
Pour terminer, Joël Dicker, j'aimerais qu'on vous entende lire un extrait de ce nouveau livre, La disparition de Stéphanie Mailer. On est avec l'enquêteur, on est aux États-Unis, on vous écoute.
J'avais imaginé que je passerais ma dernière semaine au sein de la police à flâner dans les couloirs et à boire des cafés avec mes collègues pour leur faire mes adieux. Mais depuis 3 jours, j'étais enfermé dans mon bureau, du matin au soir, plongé dans le dossier d'enquête du quadruple meurtre de 94 que j'avais ressorti des archives. La visite de cette Stéphanie Mailer m'avait ébranlé. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à cet article et à cette phrase qu'elle avait prononcée. La réponse était juste sous vos yeux, Jesse, vous ne l'avez simplement pas vue. Mais il me semblait que nous avions tout vu, justement, et plus je ressassais le dossier, plus je me confortais dans l'idée qu'il s'agissait de l'une des plus solides enquêtes que j'ai menées dans ma carrière. Tous les éléments étaient là, les preuves contre l'homme considéré comme le meurtrier étaient accablantes, Derek et moi avions travaillé avec un sérieux et une minutie implacable. Je ne trouvais pas la moindre faille. Comment aurions-nous donc pu nous tromper de coupable ? Cet après-midi-là, Derek, justement, débarqua dans mon bureau. « Qu'est-ce que tu fabriques, Jesse ? Tout le monde t'attend à la cafétéria. Les collègues du secrétariat t'ont fait un gâteau. »« J'arrive, Derek. Désolé. J'ai un peu la tête ailleurs. » Il regarda les documents éparpillés sur mon bureau, en attrapa un et s'écria. « Ah non, ne me dis pas que tu as gobé ces conneries !» Derek, je voudrais juste m'assurer que... Il ne me laissa pas terminer ma phrase. « Jesse, le dossier était béton. Tu le sais aussi bien que moi. Allez, viens. Tout le monde t'attend. » J'acquiesçais. « Donne-moi une minute. J'arrive. » Il soupira et sortit de mon bureau. J'attrapai la carte de visite posée devant moi et composai le numéro de Stéphanie Mailer. Son téléphone était éteint. J'avais déjà essayé de l'appeler la veille, sans succès. Elle-même ne m'avait pas recontacté depuis notre rencontre de lundi et je décidai de ne pas insister davantage. Elle savait où me trouver. Je finis par me dire que Derek avait raison. Rien ne permettait de douter des conclusions de l'enquête de 94 et c'est l'esprit apaisé que je rejoignis mes collègues à la cafétéria. Mais en remontant dans mon bureau, une heure plus tard, je trouvais un fax de la police d'État de Riverdale, dans les Hamptons, qui annonçait la disparition d'une jeune femme. Stéphanie Mailer, 32 ans, journaliste, sans nouvelles d'elle depuis lundi.
Voilà, sans nouvelles d'elle depuis lundi, la disparition de Stéphanie Mailer. C'était Joël Dicker qui nous lisait un passage donc de ce nouveau livre. Merci à vous, Joël Dicker.
Merci beaucoup.
Merci à vous, Jean-Christophe Ruffin. Merci. Il est temps d'aller retrouver ces personnages disparus. Donc le suspendu de Conakry, c'est chez Flammarion. C'est le premier d'une série, donc il y en aura 2 autres. Qui sont prévus pour quand, Jean-Christophe Ruffin ?
Ils sont déjà prêts, mais...
Déjà écrits.
Oui, parfait. On verra.
Nous attendons. Joël Dicker, on voit quand l'adaptation par Jean-Jacques Hano en série de Harry Kéber ?
De ce que j'ai compris, à l'automne 2018, ouais, et je m'en réjouis beaucoup.
Et en attendant, vous pouvez réécouter La vérité sur l'affaire Harry Kéber, une série de feuilletons sur France Culture, qui a d'ailleurs été rediffusée récemment et qui est disponible en podcast. Vous avez vu la série ?
Alors j'étais sur le tournage, donc j'ai vu les images au moment où on les tournait, mais la série elle-même est en montage. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne.
Vous n'avez pas participé à l'écriture ?
Non, surtout pas. Ouais. Hano avait tout compris. J'ai tout de suite compris qu'il avait compris quand on s'est parlé, et je voulais justement le laisser faire.
Ça vous intéresse, Jean-Christophe Ruffin, de participer ? Vous l'avez fait, d'ailleurs.
Pour Le Collier Rouge, qui vient de sortir et qui est une adaptation par Jean Becker, j'ai un petit peu regardé l'adaptation.
Vous n'avez pas laissé l'objet entre les mains ?
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il me l'a demandé. Et je voyais pas de raison de pas le faire. Mais je considère que, de toute façon, c'est une autre œuvre. Le cinéma, il faut accepter à un moment donné que d'autres, les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs... fasse quelque chose avec ce que vous avez fait, et puis que voilà, il faut le laisser vivre.
Voilà, c'est en salle, en tout cas. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité de Naïd Lancio, Anne-Laure Chanel à la réalisation, Julien Douminc à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant 1 an et réécouter de manière illimitée sur franceculture.fr. Cette émission sur le polar ou pas, avec Jean-Christophe Ruffin et Joël Dicker.